بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chers en islam, ce soir nous avons lu la sourate An-Nisa dans son intégralité et nous avons donc complété le quatrième juz et nous avons démarré le cinquième juz. La sourate An-Nisa est une sourate qui a été révélée à Madina. La sourate An-Nisa est une sourate qui a été révélée à Madina et il y a beaucoup de vertus. Concernant la sourate An-Nisa, on se limitera à une seule, un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, non, celui d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud dit qu'il y a dans la sourate An-Nisa cinq versets. Il dit que « Qala, fi khamsi ayati min An-Nisa, lahunna ahabba ilayya min ad-dunya jami'a » Que ces cinq versets, pour moi, elles ont plus de valeur que tout le contenu de ce monde. Ibn Mas'ud, je répète, il dit, il y a dans la sourate An-Nisa cinq versets. Et ces cinq versets ont plus de valeur que tous les biens de ce monde. Et il a cité les cinq versets, mais on ne peut pas se permettre de traduire tout. Ce sont des versets qui sont longs. Et parmi les versets donc Ibn Mas'ud a cité, c'est « Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum » verset dans lequel Allah Azza wa Jal promet que la personne qui délaisse les péchés majeurs, il obtiendra le pardon d'Allah pour ses autres péchés. Ça, c'est une traduction approximative. Autre verset, « Wa in taku hasanatan yudha'ifha » et le sens du verset, je n'ai pas amené la traduction exacte, mais le sens du verset, c'est que la personne qui accomplit une bonne action, Allah se promet de « yudha'ifha » de multiplier les récompenses de chaque bonne action que le croyant aura accomplie. Ça fait deux. Troisième verset que Ibn Mas'ud a mis en avant, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika » Les Manyasha, verset beaucoup plus connu, que en dehors du shirk, Allah peut pardonner n'importe quel autre péché. Est-ce que vous voyez le fil conducteur entre ces trois versets-là? Ça montre toute la clémence d'Allah dans la rétribution et le pardon d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas de limite. Quatrième verset, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, thumma yastaghfirillah yajidillah ghafur ar-rahima. C'est un des versets par excellence du Tawba, que la personne qui a fait des péchés, qui s'est fait du tort en faisant des péchés et qui retourne vers Allah, yajidillah ghafur ar-rahima, il trouvera un Seigneur qui est pardonneur et clément. Et ces deux noms d'Allah sont toujours cités ensemble, ou alors très souvent. Rafouran, Rafouran Rahim. Parfois c'est Rafourur Rahim, le pardonneur, et qui est également le clément. C'est-à-dire qu'Allah pardonne, et par sa clémence, Allah peut te ramener vers lui. Et dernier verset cité par Ibn Mas'ud. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ. On va s'arrêter là, parce que ce verset il est beaucoup plus long. On a vu que ce sont des versets qui parlent du pardon d'Allah, et ces versets-là ont été lus en totalité dans la lecture de ce soir. La sourate An-Nisa, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ibn Kathir رحمه الله, il rappelle que en ce début de sourate, Allah Azza wa Jal rappelle aux croyants qu'il est de leur devoir d'adorer Allah l'unique. Min wa hiya ibadatuhu wahdahu la sharika lahu. Et Allah rappelle ala qudrati. Allah rappelle sa puissance. Et c'est quoi la puissance d'Allah citée de ce verset? Qu'Allah a créé, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. C'est qui cet être unique là? Enfin, cette première créature, c'est qui? C'est Adam alayhi salam. Et donc, c'est un rappel qu'Allah a créé tous les êtres humains qui existent et qui peuplent la terre. Ils viennent à l'origine de Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, et a créé de celui-ci son épouse. Et Allah azza wa jal a créé Hawa. Comment s'appelait l'épouse d'Adam? Hawa alayha salam khuliqat min dhil'ihi, il a été créé d'une de ses côtes gauches. Donc, alors qu'il dormait, Allah donc a créé Hawa à partir de Adam alayhi salam. Et de cette union, il y a, subhanallah, l'humanité. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Et a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Ibn Kathir dit على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. Et ces populations qui ont des langues différentes, qui ont des ethnies différentes, des couleurs de peau différentes, et ainsi de suite, mais à l'origine, ils viennent tous de Adam alayhi salam et Hawa. Ibn Kathir dit mais ce verset est un rappel également, un rappel à l'humilité chez l'être humain, que personne ne se sente supérieur à son prochain, parce que à l'origine, nous descendons tous d'eux, du même père et de la même maman, Adam et Hawa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Deux rappels. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Ibn Kathir, أي اتَّقُوا اللَّهَ بِطَاعَتِكُمْ إِيَّا. Ô croyants, ayez dans votre cœur la crainte d'Allah. Et comment se concrétise, c'est pas juste de belles paroles, la crainte d'Allah. Comment se concrétise la crainte d'Allah? C'est en obéissant aux ordres d'Allah. La personne qui obéit à Allah, c'est la personne qui réellement craint Allah. Le deuxième rappel, وَاتَّقُوا الْأَرْحَامِ. Attention aux liens de sang. Antaqta'uha. Attention au fait de rompre les liens de sang. C'est le premier verset que nous voyons aujourd'hui en rapport qui traite les relations entre les individus. On était plutôt sur la révélation depuis Al-Baqara et Al-Imran, la révélation d'Allah Azza wa Jal, et le miracle du Coran, la guidée qu'il y a de le Coran. Là, nous avons les premiers versets qu'on commente, hein, ben, il y en a eu entre temps, bien sûr. Ce sont les premiers versets qu'on aborde qui traitent des relations entre les hommes, entre les croyants, entre les êtres humains d'une façon générale. Et là, Allah Rabbul Izzah met en garde contre le fait de rompre les liens de sang. Qu'au sein d'une même famille, des personnes décide de ne plus avoir de relations, de ne plus se parler. Ils se tournent le dos mutuellement. Donc attention, وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا وَلَكِنْ بِرُّوهَا بَرُّوهَا وَصِلُوهَا. Et bien au contraire, essayez de renforcer les liens de sang. Et ce mois de Ramadan, permettez-moi une parenthèse, c'est le moment peut-être parfois pour recoller les morceaux. Parce que les cœurs sont plus attendris. De le mois de Ramadan, l'orgueil, la fierté et ainsi de suite, ben on va dire qu'ils sont un peu moins présents, un peu moins envahissants. C'est dû au fait également que Shaitan a moins d'emprise, oui ou non, sur le cœur de l'homme. Ce qui fait que nous trouvons des personnes, jazakallah khair, un peu plus abordables. Donc, à mon humble avis, c'est peut-être le moment de revoir un peu les relations qu'on a avec certaines personnes de notre famille, notre entourage, au cas où s'il y a eu des frictions dans le passé, s'il y a eu, on va dire, des embrouilles, ça peut arriver, ben c'est peut-être l'occasion d'aller rendre visite en apportant quoi par exemple? Un plat, un iftar, un peu de gâteau, ça fait toujours plaisir. Et je vous assure, très souvent on retrouve le sourire et il n'y a rien de mieux, et ça on doit le retenir, que les relations d'homme à homme, en direct, en live, plutôt que tout ce qui est virtuel. Oubliez ça. C'est faux tout ça. Se dire que non, moi je l'écris des messages, je l'envoie des SMS et tout. Tout ça, c'est pas vrai ça. Ça n'a aucun poids. Les véritables relations, ce sont les relations humaines. Tu vas rencontrer ton frère, tu lui donnes la main. Qu'est-ce qui se passe quand on donne la main? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Les péchés tombent. Quand tu envoies un POC ou un Hello sur Messenger, est-ce qu'il y a des récompenses? Est-ce que les péchés tombent? Il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Mais quand tu rencontres ton frère et tu lui donnes une bonne poignée, pas une bonne claque, hein, attention, le geste que j'ai fait, une poignée de main sincère en disant salam alaikum, le prophète m'a dit que les péchés tombent quand ils se prennent la main. Ça, c'est uniquement des relations. Donc, c'est vraiment l'occasion. Et Allah Rabbul Izzah met en garde attention au fait de rompre les liens. Et dites-moi, quel est le lien le plus fort? Qui répond? Ismaïl. Quel est le lien le plus fort qui ne doit jamais, jamais, jamais être ébranlé, ni fissuré, ni remis en cause? Ou relation humaine. Oui. Oui, la relation entre les parents et les enfants. Ça, c'est la clé du paradis pour les enfants. Ça, c'est la clé. Que j'ai 12 ans, que j'ai 18 ans, que j'ai 22 ans et je viens de me marier, que j'ai 28 ans et que je viens d'avoir mon premier enfant, que j'ai 39 ans et que j'ai déjà 4 enfants, que j'ai 52 ans et que mon fils vient de se marier, que sa femme attend un bébé. Si ma maman ou mon papa est toujours de ce monde, je reste les enfants de mes parents. Et le respect pour les parents, ikhwan fillah, ça n'a pas de limite. Ça ne se discute pas, on ne remet pas en cause, et il n'y a pas match, il n'y a pas arbitré entre qui a raison, les parents ou les enfants. Il n'y a même pas à analyser. Les parents ont toujours raison. Même quand ils ont tort, ils ont raison. Et c'est comme ça. Maintenant, ça ne nous empêche pas de dialoguer, de trouver un terrain d'entente, mais je veux dire que ce n'est pas comme une relation entre collègues. Ce n'est pas comme une relation entre amis où il y a un petit accrochage et on peut dire que non, ben c'est toi qui as tort, non, c'est moi, c'est toi. Ça peut être entre amis et tout, c'est possible. Mais quand il s'agit de parents et d'enfants, en aucun cas, un enfant ne doit se mettre au même niveau que ses parents et essayer d'argumenter. Parce que on ne veut pas sortir du sujet, mais dans le 15e juz, et le 15e juz dans deux jours, hein. Je dis ça comme ça, mais ça va venir très vite. Voilà, taqul lahuma. Ouf. Ouf. En français, on appelle ça un onomatopée. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot, c'est un son qui exprime un sentiment et il n'y a pas plus court son que ouf. Ouf, c'est un signe d'exaspération. Quand les parents disent, allez acheter le pain. Le ouf, après, dans différentes langues, ça peut être interprété de différentes façons. Le simple fait, c'est pas que tu as demandé, non, pourquoi moi, pourquoi pas un tel, je suis pas ton esclave, et ainsi de suite. Je demandais à un élève ce matin, l'élève avait parlé de façon un petit peu déplacée avec moi. Je l'ai recadré. Je dis, tu aurais parlé comme ça avec ta maman? Elle m'a dit, oui, je parle comme ça avec ma maman. Il dit, et elle te laisse? Elle m'a dit, oui, elle me laisse. Je dis, le problème ne vient pas de cet enfant. Le problème vient de la maman. Comment est-ce qu'une maman peut laisser sa fille de 15 ans lui répondre, lui dire, c'est-à-dire répliquer de la sorte? Avec un professeur, on n'accepte pas. Et j'ai tout de suite fait le parallèle. Est-ce que c'est comme ça à la maison? Quand elle m'a dit oui et que c'est normal, je me suis dit que donc c'est l'éducation des parents, ça. L'erreur ne vient pas de l'enfant, de l'ado. L'erreur vient des parents qui n'ont pas su fixer les limites et remettre chacun à sa place. Après, il y a des conséquences. Quand un enfant estime qu'il a le droit de se faire entendre, de faire entendre sa voix, de répliquer ou de réprimander ses parents, là on a inversé les rôles totalement. Parce que le Coran nous dit, même ouf, on n'a pas le droit de dire. Discuter, oui, mais ne jamais montrer qu'on est exaspéré. Et ça, je pense qu'on aura, inshallah, l'occasion d'en reparler. Inna Allah kana alaykum raqiba. Ça veut dire quoi? Inna Allah kana alaykum raqiba. C'est Allah vous observe parfaitement. Je vais donner un exemple qui est bête. Hein. Si on dit qu'on a installé des caméras dans la masjid et qu'on vous observe parfaitement, est-ce qu'il passerait par la tête de quelqu'un d'aller essayer de voler quelque chose ou de faire quelque chose qui est interdit? Non, on dit non, il y a caméra partout. La caméra. Comme quand c'était un gendarme sur lequel tu déconnes pas, là, la caméra. Mais le quartier des riches, ils ont mis des caméras partout. Ils ne mettent pas ça partout, malheureusement. Et ça, c'est la conscience quand on sait qu'on est observé. Mais mettez de côté cet exemple et qu'on se rappelle ce verset. Allah vous observe parfaitement. Inna Allah kana alaykum raqiba. Les mufassirins disent, oh musulmans, quand Shaitan te pousse à accomplir un péché, ouvertement ou en secret, n'oublie jamais que Inna Allah kana alaykum raqiba. Ça, c'est la clé de la piété. C'est ce qu'on appelle muraqabatullah. La pensée permanente d'Allah. Tu n'oublies jamais ton Seigneur. Et tu ne perds jamais de tête le fait qu'Allah te voit, t'observe, c'est ce qui est dans ton cœur. Le croyant qui avance dans sa vie avec « Inna Allah kana alaykum raqiba », il ne sort pas des limites. il reste dans le droit chemin. Et ça, c'est un verset important qu'on doit intégrer, tout comme le verset qu'on avait lu hier dans la sourate Ali Imran, que Allah il est Al-Hayy et Al-Qayyum. Ça forge la confiance en Allah. Ça renforce la foi. Et Inna Allah kana alaykum raqiba. Ça, c'est dans les situations de péché. Ça te permet de revenir vers la réalité qu'Allah est avec nous et qu'Allah nous observe. Hada. On va juste passer à juste citer deux versets, comme les de la sourate An-Nisa. On a le verset Lirrijali. Non. Le verset, bismillah, si on le retrouve, Lirrijali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun, wal nisaa nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur, nasiban mafruda. Vous allez mieux comprendre pourquoi on a sélectionné ce verset avec la traduction. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce verset? Saïd ibn Jubair et Qatada rapportent que à l'époque, avant l'islam, kan al-mushrikuna, les polythéistes à Mecca ne donnaient aucune part d'héritage aux femmes. Les femmes n'avaient droit à aucune part dans l'héritage, ça c'était avant l'islam. Wala yuwarrithuna an-nisa wala al-atfal. Si un papa meurt, la femme, elle n'avait rien, ses enfants non plus n'avaient rien. L'argent allait pour qui? Pour le plus grand de la famille. Et Allah Azza wa Jal a révélé que l'homme a une part de l'héritage et la femme également a une part de l'héritage. Et cette part, elle va être détaillée plus loin. Enfin, elle est à travers le verset qui a été lu ce soir, Yusikum Allahu fi awladikum, le long verset sur l'héritage. Qu'est-ce qu'on retient? Les droits que l'islam a donnés à la femme. Avant l'islam, zéro dinar, zéro dirham. Et les enfants aussi étaient lésés. Les enfants aussi étaient lésés s'il y avait le décès du papa. Et ce verset rappelle que non, l'homme a droit à une part d'héritage, mais la femme également a droit à une part, et chacun a sa part, et comme Allah l'a décrété. Donc, la sourate An-Nisa, c'est une sourate où il y a rappel des bienfaits qu'Allah a donné aux femmes. Et dernier verset, si c'était possible, on aurait passé la nuit avec la sourate An-Nisa, tellement c'est riche. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et comportez-vous convenablement envers elles. Comportez-vous, le message s'adresse à qui? À l'époux, au mari. Et comportez-vous convenablement vers elle. Ibn Kathir dit, « Ey, tayyibu aqwalakum lahunna. » Ô époux, ô mari, quand vous vous adressez à votre épouse, parlez correctement. Pesez bien les mots, choisissez les mots les plus... J'allais presque dire les plus romantiques, mais pas forcément. Mais on va dire les mots les plus doux et les plus adaptés, parce qu'il ne faut jamais ébranler le cœur de sa femme. Ça, les machistes n'acceptent pas ça. Ah, moi, je rentre à la maison là, à moi, m'y mettre toute de monde droite. Madame m'y redresse, son cote, les enfants m'y recadrent, chacun dans la chambre, c'est le grand patron qui rentre. Le prophète, alayhi salatu wa salam, ne levait jamais la voix. Le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a jamais insulté une de ses épouses, encore moins frapper une de ses épouses. Et ce verset nous rappelle « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » d'agir de la meilleure des façons. Ibn Kathir dit « وَحَسِّنُوا » il a parlé des paroles, là maintenant il dit « وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ » « حَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ » agissez de la meilleure des façons avec votre épouse. Et il continue, et c'est là que ça va faire mal, « وَهَيْئَاتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ » et même votre apparence, et essayez de la soigner au mieux quand vous vous présentez auprès de votre épouse. C'est-à-dire, tout ça, c'est le respect de la femme. On parle bien avec madame. Il ne faut pas qu'au travail, il y a des hommes qui sont comme ça, je ne généralise pas, hein, au travail, avec les collègues de la gente féminine, courtois, d'une gentillesse, d'une politesse. Et toutes les femmes pensent que, cet homme-là, c'est du miel, ça. Ça, c'est la crème des crèmes. Ouais, c'est un Don Juan surtout. Mais chez lui, il traite sa femme comme Cendrillon, comme la dernière des dernières, comme une servante. C'est quoi cette logique-là? C'est pas ta secrétaire ou ta collègue de bureau qui s'occupe de tes enfants, qui leur donne l'éducation et qui gère tout ce que toi tu ne gères pas quand tu es au travail, ou qu'elle essaie de gérer en même temps qu'elle accomplit son travail. La reconnaissance Le shukr ala ni'ma, c'est reconnaître qu'Allah te l'a accordé comme épouse. Combien de personnes ne trouvent pas, comme on dit, chaussures à leurs pieds, qui cherchent à se marier, mais ça n'avance pas, ça ne se débloque pas. Allah t'a accordé une épouse, ben subhanallah, la moindre reconnaissance est de te comporter correctement avec elle et de la respecter. De la respecter comme Allah nous l'a demandé. Tu la respectes parce qu'Allah te l'a demandé et ensuite parce que c'est l'amour qui doit exister au sein du couple et c'est le respect mutuel qui doit exister au sein du couple. Donc ça, justement, il y a beaucoup de personnes également qui, à l'extérieur, quand ils doivent aller en dehors de leur maison, ils soignent leur tenue vestimentaire. Il va mettre sa plus belle chemise, sa cravate, son costume, et il est bien présenté devant les gens. Les gens disent c'est quelqu'un de beau, d'élégant et tout. Arrive à la maison, tac, 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 il enlève tout. Il met son vieux t-shirt que les troués, il met son vieux pantalon qu'il a depuis le début de mariage, et parce qu'il est en mode cool. On aime tous être en mode cool, d'accord? Mais au nom de quoi ta femme va te regarder habillé comme un souillon? Donc, dans la rue, tu te pavanes dans des vêtements de 450 euros et à la maison, tu mets un vieux bermuda avec un vieux débardeur qui n'a un trou que le t-shirt est devenu débardeur en fait. Il s'est transformé, il s'est... D'accord? Ça, c'est pas du respect, ça. Ibn Abbas, je crois que c'était Ibn Abbas, si je ne me trompe pas, radiallahu anhu, il dit que faites-vous, ben, arrangez votre apparence, soyez le plus beau possible auprès de votre épouse, tout comme vous, vous attendez qu'elle se présente à vous avec quand même une tenue soignée. Un mari, il veut que quand sa femme vient le voir, ben, qu'elle est bien coiffée, qu'elle s'est bien préparée. Ben, il dit, mais ça va dans les deux sens. On a de quoi, il y aurait d'un côté un gros cro-magnon et de l'autre côté une princesse. Ça ne marche pas. Les cro-magnons ne méritent pas les princesses. Les princesses ne méritent pas les cro-magnons. Il faut qu'il y ait un effort dans les deux sens. Ibn Kathir dit ça, ça fait partie du bon comportement du mari envers l'épouse. Et on va conclure avec le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle « Khayrukum, khayrukum li ahli ». C'est le hadith qu'on rappelle lors des mariages. « Wa ana khayrukum li ahli » hadith de Ibn Majah, le prophète dit « Les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement avec la famille. » Et en arabe, le mot « ahl », ça veut dire « famille », mais de façon plus khasse, « ahl », c'est l'épouse. Et le prophète dit que ana wa ana khayrukum li ahli. Et moi, le prophète dit, je suis le meilleur parmi vous en termes de comportement avec ma famille, avec mon épouse. Ça veut dire, prenez-moi comme modèle. L'exemple prophétique, c'est pas uniquement la tenue vestimentaire, la barbe, le kandou et ainsi de suite. Tout ça, c'est bien, mashallah. Mais le modèle prophétique, c'est également le respect de son épouse. Une fois, le prophète alayhi salatu wassalam reçoit un plat de nourriture et il était chez une de ses épouses. Elle était prise de jalousie. On connaît l'histoire. Elle a pris ce plat et l'a jeté tellement elle était en colère. Le prophète alayhi salatu wassalam, prophète d'Allah, prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit un mot. Toi, en tant que chef d'entreprise, patron, ton employé, il dit juste une parole de travers. Comment on remonte ce bretel, sa race même? Tu le détruis. Tu m'as manqué de respect. Tu n'as pas honte et tout. Parce qu'on se sent au-dessus de la personne. Sur le plan hiérarchique, on sait qu'on est au-dessus. C'est dans la hiérarchie. Tu es le patron, le directeur. Lui, il est sous ta coupe. Ben, on n'hésitera pas une seconde à user de cette supériorité, entre guillemets, hiérarchique, pour l'écraser, pour le réprimander, lui faire comprendre qu'il n'aurait pas dû faire ça, ou dire ça, ou agir comme ça. Là, c'est l'homme qui a le rang le plus élevé de la création. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il voit son épouse qui est prise, éprise de colère, qui fait ça. Le prophète ne dit pas un mot. Il va ramasser les débris du récipient, il va ramasser la nourriture, et il va demander à ce que le récipient soit remboursé à la personne qui l'avait donc envoyé, et il va dire à ceux qui étaient autour, je ne sais plus avec qui il a dit ça, il a dit qu'elle a été prise de jalousie, en souriant. C'était un accès de jalousie. Et il ne fera aucune reproche. Qui est capable d'agir comme ça? Ça c'est Nabiyur Rahma. Rahmatan lil alamin. Qu'Allah Rabbul Izza remplisse nos cœurs d'amour pour lui, d'amour pour Allah. Ensuite, d'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam et pour toutes les personnes, tous les bonhommes là qui sont mariés dans l'assemblée. Qu'Allah remplisse nos cœurs de muhabba pour la personne qu'Allah a mis dans notre vie. Et pour les jeunes qui ne sont pas mariés, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde une épouse vertueuse qui sera pour eux, Inch'Allah, un guide dans le droit chemin et une murabbiya, une mère qui donnera la meilleure des éducations à leurs enfants. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil izzati.